VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiri et Eric Manila qui est en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du lundi 19 septembre 2016, au sommaire ce soir.
Violence meurtrière et pillage à Kinshasa après une manifestation de l'opposition contre le président Joseph Kabila.
Au moins, oui, personne tuée dans une fusillade attribuée à Boko Haram dans un village près de Chibok au Nigeria.
Le riz, source de dislocation de familles dans l'ouest du Burundi. Notre correspondance sur place nous fera le point.
Arrestation de l'Américain d'origine afghane, suspect en rapport des explosions de Manhattan samedi soir et de Seaside Park dans le New Jersey.
L'économie et les sports.
Juste après le journal.
Au moins une dizaine de personnes sont mortes dans des violences aujourd'hui à Kinshasa avant une manifestation de l'opposition, selon le ministre de l'Intérieur congolais, Évariste Boshab. La tension est à son comble dans la capitale, comme nous rapporte Saloua Jafari.
Kinshasa en proie au chaos. Ce lundi, d'un côté, les forces de l'ordre en état d'alerte armées de grenades lacrymogènes. De l'autre, des jeunes manifestants de l'opposition derrière un épais nuage de fumée et de pneus enflammés.
Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Premièrement, Kabila ne veut pas quitter ce pays et ne veut pas organiser les élections. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui obligés de marcher pour montrer notre contestation pour les élections en 2016. Si Kabila ne respecte pas la Constitution, nous aussi on va appliquer l'article 64 de la Constitution.
Plusieurs morts sont à déplorer parmi les forces du gouvernement comme parmi les manifestants. Un policier a même été brûlé vif dans l'attaque d'une permanence du parti présidentiel à Limité. Réunis autour d'Étienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS, un rassemblement des principaux partis d'opposition, a appelé à manifester lundi dans tout le Congo pour signifier au président Kabila son préavis 3 mois avant l'expiration de son mandat le 20 décembre et exiger la convocation de la présidentielle avant cette date.
Il faut noter, Saloua, que la France demande aux autorités congolaises de faire en sorte que le report de l'élection présidentielle soit aussi court que possible. D'après le ministre français des Affaires étrangères, il est nécessaire que le calendrier soit connu au plus vite. Paris regrette que le corps électoral n'ait pas été convoqué dans les délais constitutionnels, Morgane.
En République centrafricaine, un calme précaire est revenu à Kagabandoro, dans la Nana Gribizi. Selon des sources locales, les commerces et autres activités ont repris timidement. La majeure partie de la population est encore sous le choc de violences qui ont fait plusieurs morts, des blessés et des scènes de pillage. Le point sur place avec Freeman Sipila.
Malgré la psychose encore présente, quelques commerces ont rouvert ce lundi au centre de Kagabandoro. Les activités reprennent lentement dans la ville, mais les villages environnants sont encore déserts. La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a renforcé son dispositif militaire sur place, ce qui a réduit le mouvement des hommes armés de l'ex-Séléka. Dans un communiqué, le gouvernement a appelé ex-Séléka et Antibalaka, deux groupes armés responsables des violences de ces derniers jours dans la localité, à cesser leurs exactions. Il a par ailleurs annoncé des opérations musclées, forces de sécurité intérieure et MINUSCA pour sécuriser la ville. Vendredi, des heurts ont éclaté au village Ndomété, à 10 km de Kagabandoro, entre ex-Séléka et Antibalaka qui disputaient le contrôle d'une barrière. Les violences qui se sont ensuite poursuivies dans d'autres localités et à Kagabandoro centre auraient fait une vingtaine de morts, de nombreux blessés, des commerces et sites des humanitaires pillés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et le bilan des dernières violences dans le centre du pays revu à la baisse. La mission des Nations Unies sur place, la MINUSCA, ne compte plus que 6 morts lors de heurts entre ex-Séléka avec des anti-Balaka le 16 septembre en Ndomété, à 10 km de Kagabandoro.
Nouvelle fusillade attribuée à Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des riverains cités par l'AFP comptent au moins 8 personnes tuées à Kwamjilari, à une trentaine de kilomètres de Chibok. Des hommes à moto ont ouvert le feu sur la foule à la sortie de la messe dimanche.
Au Niger, 7 opposants proches de l'ancien président du Parlement, Amadou, sont sortis de prison hier. Parmi eux, le très populaire Soumana Sanda, président de la coordination régionale du Modem Lumana. Ils ont passé 10 mois de détention pour attroupement armé et non armé à l'occasion du retour à Niamey d'Amadou, qui s'était exilé en France. Notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa.
Les 60 kilomètres qui séparent Saï de la capitale Niamey ont été parcourus en presque 2 heures de temps. Les militants du parti Lumana Africa se sont mobilisés le long de la voie pour saluer le retour parmi eux de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs lieutenants de Hama Amadou. C'est finalement à son domicile que Soumana Sanda a eu les premiers mots pour tout ce monde.
C'est de remercier l'ensemble des militants du Moderne FA Lumana Africa, au-delà tous les Nigériens qui, durant ces 10 longs mois, nous ont apporté soutien et réconfort.
Ce fut ensuite une pensée à son leader, Hama Amadou.
J'assume et je réaffirme mon amitié, ma fidélité et ma loyauté à Hama Amadou.
Arrêté au soir du retour de Hama Amadou de Paris le 14 novembre 2015, Soumana Sanda et les 6 autres militants du parti ont été condamnés par la justice pour incitation et participation à un attroupement armé et non armé. Sorti de prison ce 18 septembre, il va rejoindre le Parlement où il occupera le poste de président du groupe parlementaire de son parti. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et grève des enseignants et des étudiants reconduite au Niger. Ils protestent contre des retards de paiement des salaires et des bourses. Les universités publiques du pays ont été fortement paralysées, rapporte l'AFP, citant des sources syndicales.
Réhabilitation des monuments de Tombouctou dans le nord du Mali. La porte de la mosquée de Sidi Yahia, restaurée sous la supervision de l'UNESCO, a été réinstallée. Elle avait été détruite en 2012 par des djihadistes. Le Touareg malien Ahmad Al-Faki Al-Mardi est actuellement jugé pour destruction de patrimoine culturel par la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le suspect arrêté en connexion avec les attaques samedi à New York et dans le New Jersey a été blessé dans la fusillade qui a mené à son interpellation. L'arrestation a eu lieu à Linden, dans le New Jersey, non loin de la ville d'Elizabeth où il réside. Le point avec Tatiana Mosso.
Le suspect Ahmad Khan Rahami est d'origine afghane, naturalisé américain et réside dans le New Jersey, état voisin de New York. Le week-end a vu plusieurs attaques se produire aux États-Unis, la principale étant l'explosion d'une bombe artisanale à New York, dans le quartier animé de Chelsea. Un autre engin a été retrouvé à proximité, mais n'avait pas explosé. Dans le Minnesota, un homme a blessé samedi soir 9 personnes à l'arme blanche dans un centre commercial avant d'être abattu. Une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Plus tôt samedi, une bombe avait explosé dans le New Jersey sur le parcours d'une course à pied sans faire de blessés. 3 autres bombes artisanales ont été trouvées sur les lieux. Les autorités ne voient pour l'instant aucune preuve d'une coordination entre ces différentes actions. Mais le fait qu'ils soient tous intervenus en moins de 24 heures relance les craintes d'attaques terroristes.
En Syrie, des raids aériens et des bombardements ont frappé ce soir les quartiers rebelles d'Alep, moins de 2 heures après l'annonce par l'armée de la fin du cessez-le-feu. L'accord de cessez-le-feu russo-américain aura duré 1 semaine. Pour le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, l'accord est particulièrement fragile, mais reste la seule base pour parvenir à amorcer un règlement du conflit. Les 193 pays de l'ONU ont promis de tenter d'améliorer le sort de millions de réfugiés sans se fixer d'objectifs chiffrés.
Le président turc a estimé dans une conférence de presse à Istanbul que l'opération militaire lancée par son pays en Syrie a permis de nettoyer jusqu'à présent près de 900 km² du territoire de la présence d'éléments terroristes. Cette zone de sécurité pourra bientôt atteindre 5000 km², a-t-il ajouté.
Toujours en Turquie, près de 28 000 enseignants ont été licenciés. Ils sont soupçonnés de liens avec les rebelles kurdes ou de la confrérie de l'ex-prédicateur Fethullah Gülen, accusé d'être l'instigateur du putsch avorté du 15 juillet.
L'ambassadeur d'Israël auprès de l'Union européenne à Bruxelles est désormais également ambassadeur à l'OTAN. C'est une première pour ce pays qui n'avait jusque-là pas de représentation diplomatique auprès de l'Alliance, selon la mission de l'État hébreu auprès de l'Union européenne.
Et Donald Trump rencontre aujourd'hui en fin de journée à New York le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. L'homme fort du Caire devait déjà voir Hillary Clinton, la candidate démocrate. Elle verra aussi le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président ukrainien Petro Porochenko en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Le gouvernement du Niger a adopté une série de décrets pour l'ouverture du marché de l'électricité et en fixant les conditions d'attribution des licences d'importation et d'exportation de l'énergie électrique. Selon Financial Afrique, le premier décret fixe notamment les conditions d'accès des tiers au réseau de transport de l'énergie électrique, moyennant paiement d'un droit d'accès. Au Niger, la fourniture de l'énergie électrique était jusque-là détenue par la seule société étatique, la Nigérienne d'électricité ou Nigelec. Une campagne de sensibilisation des professions libérales sur l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle a été lancée aujourd'hui à Abidjan. En Côte d'Ivoire, plusieurs textes rendent obligatoire la souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de certaines activités. Mais selon les autorités, ces lois sont peu connues. Or, dans l'exercice de leur métier, les professions libérales peuvent causer des dommages à leurs clients et autres partenaires sans que les 10 opérateurs économiques soient en mesure d'indemniser leurs victimes. La FAO et l'UTAP, l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, vont organiser fin octobre prochain un forum sur la femme agricultrice en Afrique et l'économie solidaire et sociale. L'objectif, trouver des débouchés au commerce et à l'exportation de leur production à travers des coopératives agricoles, mais aussi identifier des pistes pour les faire bénéficier de formation.
Actualité sportive ce soir avec Tatiana Mosso. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir Eric.
On commence par le football, Coupe de la CAF. Et c'est le retour qui doit tout déterminer.
Exactement. Les Tunisiens de l'Étoile du Sahel, tenants du trophée, ont été tenus en échec 1-1 sur leur terrain par les Congolais du TP Mazembe en demi-finale aller de la CAF, qui a vu aussi Mouloudia Béjaïa et le FUS Rabat se séparer sur un score de parité 0-0 ce week-end. Tout se jouera donc au match retour, vous l'avez dit, le 25 septembre, même si Mazembe possède un léger avantage pour avoir marqué un but en déplacement. Donc le résultat des demi-finales.
Allez, oui, à Béjaïa.
Oui, Mouloudia Béjaïa, donc les Algériens face au FUS Rabat du Maroc 0-0.
Et à Sousse.
Et à Sousse, l'étoile du Sahel tenante du titre, donc 1-1 face au TP Mazembe.
Et on va en Europe, dans le pays de la reine Elisabeth, en Angleterre, Manchester United, Mourinho et Pogba déjà dans la tourmente.
Effectivement, la lune de miel est finie. José Mourinho et Paul Pogba sont déjà sous le feu des critiques après la troisième défaite consécutive de Manchester, 3-1 face à Watford. L'histoire avait pourtant bien commencé et malheureusement, si Rooney est visé, Pogba aussi est dans le collimateur des critiques après plusieurs matchs sans saveur, excepté sa frappe sur la barre contre Watford. Le joueur qui a coûté 105 millions d'euros a surtout eu l'air d'un joueur incapable de tenir le montant de son transfert puisque... Ça, c'est en tout cas ce qu'annonce le Times. Et enfin, le Daily Mail qui dit, qui a été encore plus dur, Pogba, que du style, pas de substance. Les Anglais sont durs.
En Italie, on jouait la cinquième journée. La Lazio pour rejoindre la tête et Milan pour confirmer.
Oui, la Lazio Rome brillante devant le Pescara 3-0 à l'occasion de rejoindre à la tête du championnat d'Italie occupé par Naples si elle s'impose à Milan mardi en ouverture de la cinquième journée. Mais l'AC Milan entend confirmer son succès 1-0 face à Gênes. Les Turinois, quintuple tenant du titre, voudront sans doute oublier le plus vite possible le premier match de la saison.
Merci Tatiana et signalons que la flamme s'est éteinte à Rio. Place aux Jeux de Tokyo. Là, on parle des Jeux paralympiques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Morgane Guerrier et Eric Manirakiza avec vous. Place au dossier du jour.
Au Mali, le processus d'application de l'accord pour la paix et la réconciliation est bloqué à cause des divergences entre les différents acteurs. Il y a toujours des combats entre le Gatia et la CMA dans la région de Kidal et qui ont fait ce week-end plus de 20 morts et une dizaine de blessés. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les Gatia et la CMA continuent avec des affrontements pour le contrôle de la région de Kidal. Depuis le mois de juillet, ces deux groupes ne s'entendent plus. Dadji Touré, ressortissant des régions nord du Mali.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a combien de groupes? MLA, NLA, SEU. Il y a toutes sortes de groupes que vous. Donc la première des choses, on ne peut pas dire qu'on est en... Le moment où on ne prend pas la main on prend les prêts dans la main dans le sac, ils ont des cartes qui montrent pour dire que bon, je suis de tel groupe, je suis de tel groupe. Le moment où on ne les prend pas, ces mêmes personnes peuvent attaquer. On ne connaît aucun pays dans le monde qui va dire que bon, voici, on négocie avec certaines personnes ont des droits sur une partie, d'autres n'ont pas de droits sur d'autres parties. Cela n'est pas admissible.
La bataille pour le leadership dans la région de Kidal n'est point une surprise.
Moi, c'est Dr Lamine Sandy Aydra. Je suis enseignant-chercheur. Bon, moi, je crois que cette tension est prévisible. Ça veut dire que chacun sait qu'il est soutenu quelque part. Et dans cette affaire, c'est la France qui ne dit pas encore la vérité. Parce que vous ne pouvez pas soutenir l'accord et vous cacher de l'autre côté pour soutenir un des belligérants. C'est pas possible.
Pour certains Bamakois, ce conflit oppose deux grandes communautés de la région de Kidal, à savoir les Ifo Gas et les Imgad.
Je suis Yaya Diarra, étudiant en philosophie. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est deux groupes, c'est-à-dire la guerre ou bien le combat qu'ils sont en train de mener entre eux, ils sont en train de tuer des Maliens. Il faut savoir que tous ces deux groupes sont des Maliens. Donc, c'est-à-dire la guerre, c'est entre deux groupes maliens. Ils doivent comprendre que ce n'est que des familles et ce n'est qu'un pays qui est en train d'être décimé de la situation.
À la base de ces affrontements entre Imgad et Ifo Gas, il y a la mise en place des autorités intérimaires. Smithy Ag Akado, président de l'association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella.
Comment vous pouvez prendre des hommes qui ont fait tant de mal à ce pays-là et dire que ce sont ces mêmes hommes-là qui vont être responsabilisés par rapport à des régions, par rapport à des populations qui ne les ont pas mandatées. On l'a dit en son temps. Ces gens-là, ils n'ont pas la légitimité requise pour conduire, n'est-ce pas, ce processus-là qui leur a donné trop de responsabilités. Vous voyez, entre eux-mêmes, ils commencent à s'entre-déchirer. La solution, si le Mali entier ne pouvait pas s'asseoir pour trouver une solution à ces problèmes, que les régions du Nord, au moins dans toutes leurs sensibilités, dans toutes leurs composantes, s'asseyent et dire exactement voilà ce que nous voulons. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Pour le moment, le gouvernement malien, encore moins l'administration, n'ont fait des déclarations. Tous attendent ce mercredi, date à laquelle doit se tenir la prochaine réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La saison de récolte du riz au Burundi pousse les maris à chercher d'autres femmes en délaissant les leurs qui pourtant passent leur journée à défricher les champs. Ce phénomène pousse les femmes à quitter leur logis pour retourner chez elles. Et ce phénomène se passe dans l'ouest du Burundi, comme nous le dit notre correspondant sur place, Christophe Mourounzid.
De nombreuses femmes s'attellent à longueur de journée à la culture du riz dans la zone de Mouvoné, une des localités de la commune Moutimbouzi dans la province de Bujumbura rurale. Même constat dans la commune de Manda, province de Ouanza, au nord-ouest du Burundi, dans les champs qui s'étendent à perte de vue. Du matin au soir, des mamans avec leurs bébés sur le dos passent leur temps à cultiver cette culture qui est prisée par la majorité des Burundais. Mais cette saison des récoltes de riz devient une période néfaste pour ces milliers de femmes qui n'arrivent pas à profiter de la récolte. Cette maman a vécu avec son mari pendant 5 ans. Quand, l'année dernière, elle a donné l'argent de toutes les récoltes de riz à son mari, ce dernier est parti pour une autre femme et n'a jamais plus vu celui avec lequel elle avait déjà 2 enfants. Témoignage.
Mon mari rentrait souvent très tardivement. Il était occupé par d'autres femmes. Il ne donnait plus la ration quotidienne. Il n'achetait plus d'habits. J'avais toujours des problèmes continus avec un cœur toujours lourd. J'ai opté pour retourner à la maison familiale pour ne pas mourir à petit feu.
La situation de cette femme ressemble à celle des milliers d'autres. Cette autre femme habite chez son mari qui est parti vers une autre destination inconnue. Elle a appris que son mari vit aujourd'hui avec une autre femme.
On cultivait ensemble le riz avec mon mari. Mais avec la période de récolte de riz, notre production partait ailleurs, pas à la maison. Cette situation a empiré jusqu'à ce qu'il amenait une autre femme à la maison. Il a par après quitté la maison sans même payer le loyer de 6 mois. Les enfants étaient des bébés, aujourd'hui ils ont grandi. Aujourd'hui je loge chez une amie alors que leur papa vit très bien avec la nouvelle femme.
Des associations des droits humains condamnent ces pratiques dans notre âge, tout comme les autorités administratives burundaises. Ce chef de la zone de Manda au nord-ouest du pays, où des cas similaires sont constatés, indique que ce comportement est à décourager pour le bien des enfants.
Des efforts ont été menés pour pouvoir combattre, je dirais, cet fléau. On arrive à un pas, je dirais, considérable parmi des actions que nous avons menées. Il y en a la sensibilisation pour la régularisation des mariages parce que les unions libres favorisent également le concubinage.
La polygamie reste une pratique courante qui est implicitement tolérée dans les régions de l'ouest du Burundi où les maris, à chaque bonne saison culturelle, changent de partenaire pour de plus jeunes femmes et ou filles. Mais bien de personnes condamnent avec la dernière énergie ce comportement qualifié d'irresponsable. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Et cap sur New York, au siège des Nations Unies, un sommet sur les migrants et les réfugiés se tenait aujourd'hui en prélude de l'Assemblée générale de l'ONU. Retrouvons sur place Timothée Ndonongmaï.
Nous sommes ici dans le centre de presse à la veille de l'ouverture de la 71e Assemblée générale de l'ONU. Environ 3000 journalistes ont été accrédités cette année pour couvrir cette grande messe annuelle onusienne. Mais pour revenir aux travaux de l'ONU, une réunion de haut niveau sur les déplacements massifs de réfugiés et de migrants a eu lieu aujourd'hui. Des dizaines de dirigeants du monde ont ainsi adopté une déclaration, la déclaration de New York, dans laquelle ces dirigeants s'engagent à protéger les droits des réfugiés et des migrants. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, s'en est félicité.
Davantage d'enfants peuvent aller à l'école. Davantage de travailleurs peuvent en toute sécurité chercher de l'emploi à l'étranger au lieu d'être à la merci des passeurs criminels.
Le ton est donc donné. Réfugiés, Syrie, climat, terrorisme, ce sont les thèmes qui vont dominer cette Assemblée générale de l'ONU à partir de demain, avec la présence de 135 chefs d'État et de gouvernement. Une assemblée qui sera la dernière pour le président américain Barack Obama, ainsi que pour Ban Ki-moon, l'actuel secrétaire général de l'ONU, dont le mandat arrive à terme à la fin de cette année. Et Tim, sécurité doublement renforcée cette année.
Tout à fait, Jacques. En temps normal déjà, la sécurité est très stricte à New York à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais cette année, elle a été rehaussée d'un ou deux crans. Et c'est suite aux explosions d'origine criminelle de New York et du New Jersey ce week-end. Et celle de New York a fait 29 blessés. Alors Jacques, l'enquête a progressé très rapidement. D'abord, dès dimanche soir, la police a interpellé 5 personnes en rapport avec ces explosions. Puis ce lundi, un suspect clé a été arrêté dans l'état du New Jersey. Il s'agit d'Ahmad Khan Rahami, un Américain d'origine afghane de 28 ans, qui a été interpellé dans l'État du New Jersey après un échange de tirs avec les policiers. Son interrogatoire permettra certainement d'en savoir un peu plus sur ces explosions. Cela dit, Jacques, à la suite de ces incidents, se déplacer à New York est devenu un peu plus compliqué.
Effectivement, Tim, grosse perturbation, d'autant que plusieurs stations de métro étaient fermées ce matin, alors que certains trains n'effectuaient pas leur trajet régulier. Pour vous dire, Tim, moi-même, j'ai dû changer au moins 4 stations pour pouvoir me rendre dans les environs de l'ONU. Je dis les environs parce que plusieurs routes sont fermées et il fallait faire une marche de 30 minutes à peu près pour pouvoir accéder au bâtiment de l'ONU. Et le temps pluvieux de ce matin, Tim, n'arrangeait aucunement les choses.
Timothée Donangmaï, Jacques Aristide à l'ONU, VOA Afrique.
Présidentielle américaine, les explosions qui ont eu lieu ce week-end à New York et dans le New Jersey n'ont certes pas été meurtrières, mais elles alimentent la crainte de nouveaux attentats terroristes et remettent la sécurité au cœur de la campagne présidentielle entre Hillary Clinton, la candidate démocrate, et Donald Trump côté républicain. Le point avec Anastasie Tudiech. Quelles ont été les réactions des candidats, Anastasie?
Apaisement et fermeté du côté démocrate. N'ayons pas peur, a lancé Hillary Clinton aux Américains lors d'un point presse ce matin. Nous avons affronté des menaces dans le passé. Je sais que nous ferons face à ce nouveau danger avec le même courage et la même vigilance. Nous avons choisi la détermination, pas la peur, a-t-elle continué. Elle a également plaidé pour des efforts supplémentaires en matière de collecte de renseignements, tout en se positionnant comme la seule des deux prétendants à la Maison-Blanche à avoir été associée à des décisions difficiles visant à éliminer les terroristes. Enfin, la candidate démocrate est revenue sur son plan global contre la nature évolutive de cette menace et a dénoncé ce qu'elle a appelé la démagogie de son rival républicain.
Et vous parlez de Donald Trump, n'est-ce pas ?
Alors aujourd'hui, M. Trump a prédit de nouvelles attaques, s'en prenant à une politique du faible qui aurait ouvert les portes à des dizaines de milliers de migrants et il a appelé à plus de sévérité. Le président américain Barack Obama, présent à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, a appelé lui aussi les Américains à ne pas céder à la peur après les attentats, promettant que justice sera faite. Il a toutefois précisé qu'il n'y avait pour le moment aucun lien entre les attentats dans le New Jersey et à New York et l'attaque à l'arme blanche survenue samedi dans le Minnesota, dans le nord du pays, revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Rappelons que comme dans certains pays européens, les États-Unis ont connu ces derniers mois plusieurs attaques sanglantes perpétrées par des terroristes. À Orlando, en juin, l'attentat a fait 49 morts. Il a été revendiqué par le groupe État islamique. Et à San Bernardino, en décembre, c'est en Californie, 14 morts ont été déplorés. Un attentat salué, mais pas revendiqué par le groupe État islamique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et
Et c'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Mr. Linus Rankus à la console. Présentation Morgane Guiriec et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000 déjà. On maintient la conversation. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.